commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Mais j'ai une suspicion qu'ils ont fait une erreur. Il y a un autre marais qui existe aussi à Oxford, qui est bien sûr le petit-fils de Gilbert Murray. Moi, je dois vous décevoir. Malgré ma cravate qui apporte le tartan du clan Murray et mon nom, il n'existe aucun lien de parenté entre la famille de Gilbert Murray et la mienne. En effet, lui est issu d'une famille irlandaise, catholique et aristocratique. Bien que moi, je suis d'une famille écossaise, calviniste et paysanne. Peut-être au moins cela me donnera un peu de distance à mon sujet. Je trouve aussi une similarité remarquable entre la carrière de Henry Bergson, comme M. Azouvi l'a décrit hier, et celle de Gilbert Murray. Bien que peut-être, de mon part, j'ai jugé Gilbert Murray avec moins de sympathie que M. Azouvi a donné à Bergson. La République des lettres a besoin de se renouveler sans cesse à cause de ces crises périodiques. Tout au début, il s'agissait des guerres de religion ainsi que la persécution des Huguenots et leur fuite aux pays protestants. La reprise des Lumières a été interrompue par la Révolution française et par le déplacement de la puissance intellectuelle de la France et de la Grande-Bretagne envers l'Allemagne. Nous, de nos jours, avons témoigné la grande renaissance provoquée par la diaspora juive de 1933, ce qui a transformé le monde universitaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Plus récemment, l'effondrement du rideau de fer et l'éloignement des intellectuels du communisme ont ouvert des possibilités nouvelles. Mais la transformation plus dramatique que tous les autres a été faite par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour ce qui concerne le savoir international, durant la domination longue de la bourgeoisie qui a caractérisé le XIXe siècle, l'Allemagne était sans rival. Partout, dans l'Europe et les États-Unis, on a jugé tous les développements dans les humanités selon les nouveaux modèles allemands, historiques, philosophiques et philologiques. Le plus grand honneur auquel un lettré étranger pouvait aspirer était d'entrer en correspondance avec l'un des grands professeurs allemands. Gilbert Murray faisait partie de la tradition anglaise. Il a commencé sa vie universitaire en enseignant les disciplines classiques traditionnelles fondées sur la traduction des langues anciennes et la composition de la prose grecque et latin et des vers grecs et latins, comme moi. Mais il a mis l'accent sur la critique littéraire et sur la nouvelle discipline d'anthropologie qui ont caractérisé toutes les deux l'époque de l'avant-guerre. En 1889, à l'âge de 24 ans, il a été désigné à la chaire prestigieuse du grec à l'Université de Glasgow, un poste qu'il a occupé pendant 10 ans. En 1908, il a été nommé au poste le plus important en Grande-Bretagne. celui du professeur royal de littérature grecque à l'université d'Oxford. Un poste qu'il a gardé jusqu'à sa retraite en 1936. Il était le lettré classique le plus célèbre de son époque en Grande-Bretagne, auteur des livres populaires sur les Grecs et leur littérature et sur les éditions des textes des écrivains grecs tragiques. Mais il était aussi, avant la Première Guerre mondiale, un dramaturge célèbre, dont les traductions d'Euripide ont dominé les théâtres de Londres. Il était l'ami des actrices telles que Madame Patrick Campbell et de tous les écrivains, poètes et dramaturges contemporains. En 1905, George Bernard Shaw a donné à Murray et sa femme les rôles principaux dans sa comédie Major Barbara, tout en démontrant une justesse cruelle et révélatrice. Le mariage, en effet, de Murray, en 1889, à Lady Mary Howard, la fille de l'Earl de Carlisle, l'a lancé dans sa carrière politique. Les Carlyle étaient membres de la coterie des libéraux aristocratiques qui ont gouverné la Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale. Ils étaient des radicaux, des anti-alcooliques, ils ne buvaient jamais, et ils étaient dévoués à la réforme. Murray a accepté avec plaisir son rôle de conseiller intellectuel au clan dominant de la vie politique de la Grande-Bretagne. C'était un milieu qui l'a mené à prendre une position importante dans la destruction de la République des Lettres qui a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Les intellectuels de tous les pays combattants se sont précipités à donner leur soutien au but de guerre nationaux de son pays et à dénoncer leurs anciens collègues du camp opposé. Murray était bien sûr responsable de la première démarche visant à démonter l'érudition européenne. Il était l'auteur principal d'une lettre formelle qui a paru dans le journal The Times le 18 septembre 1914, sous le titre « Le destin et le devoir de la Grande-Bretagne », une déclaration des auteurs, une guerre juste. La lettre a dénoncé l'invasion, j'ai une photocopie ici de la lettre. La lettre a dénoncé l'invasion par les Allemands de la Belgique et elle a entièrement accepté la justification pour la guerre comme elle a été présentée par la Grande-Bretagne et par la France. Elle a dénoncé la responsabilité des universitaires allemands. Comme ça, nous remarquons une acceptation auprès de divers apologistes allemands, officiels et demi-officiels, que son pays a été faux à sa parole donnée et qu'ils insistent presque fièrement sur l'horreur des exemples par lesquels il a cherché à terroriser la Belgique. Pourtant, ils excusent cette façon d'agir d'une manière étrange et singulière. La culture et la civilisation de l'Allemagne sont si supérieures aux celles d'autres pays que toutes les mesures prises pour les affirmer sont justifiables. Et le destin de l'Allemagne de devenir la force dominante de l'Europe et du monde, et si manifeste que les règles habituelles de la moralité ne tiennent pas dans son cas. Les actions étant considérées bonnes ou pas, simplement en mesurant leur succès en accomplissant ce destin-là. Et Marie continue. Ces idées, inculquées à la génération courante des Allemands par de nombreux historiens et enseignants célèbres, nous semblent à la fois dangereuses et folles. Beaucoup d'entre nous avons des chers amis en Allemagne. Beaucoup d'entre nous respectons hautement la culture allemande et nous y sommes bien reconnaissants. Mais nous ne pouvons pas admettre qu'un peuple se donne le droit par la force d'imposer sa propre culture aux autres nations, ni que la bureaucratie militaire de fer de la Prusse représente une forme de la société humaine plus élevée que les constitutions libres de l'Europe occidentale. La lettre était signée par 52 des plus grands écrivains anglais. Les professeurs des études classiques, Jane Harrison et Gilbert Murray, l'historien G.M. Trevelyan, les poètes Robert Bridges et John Masefield, et les romanciers G.K. Chesterton, John Galsworthy, Rider Haggard, Thomas Hardy, Jerome K. Jerome, Rudyard Kipling, and Mrs. Humphrey Ward. L'initiative de Marie a provoqué une disruption formelle de la culture en Europe parmi toutes les nations combattantes. En France, pendant la séance du 8 août, le président de l'Académie des sciences morales et politiques, Henri Bergson, est allé même plus loin. Il dit « La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre Académie, l'Académie des sciences morales et politiques, a peut-être une autorité particulière pour le dire, vouée en grande partie à l'étude des questions psychologiques, morales et sociales. Elle accomplit un simple devoir scientifique en signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute justice et de toute vérité, une régression à l'état sauvage. De nombreux écrivains individuels, tels que Maurice Maeterlinck, Romain Rolland et Anatole France, se sont unis pour dénoncer la barbarie de l'Allemagne. Les grades honoris causa, tels que celui de Wilamowitz à l'Université de Paris, ainsi que ses adhésions aux académies étrangères, étaient annulés. Il a écrit, Wilamowitz a écrit à Marais avec tristesse en 1915. Il est malheureusement vrai que nous ne nous rencontrerons plus de notre vivant, et que mes souvenirs les plus chers de mon séjour à Oxford apparaîtront à la génération cadette comme quelque chose qui appartient à un paradis perdu. En Allemagne, l'auteur populaire Ludwig Fulda a répondu à la provocation de Marie dans le Times avec une lettre ouverte, publiée le 4 octobre 1914, nommée « An die Kulturwelt », signée par 93 professeurs célèbres allemands, des directeurs des musées et des théâtres et des chefs de musique. La liste des noms contenait tels que Adolf von Harnack, Eduard Meyer, Max Planck, Max Reinhardt, Siegfried Wagner et Ulrich von Wilhelmowitz-Moellendorff. La lettre a expressément nié l'allégation que l'Allemagne ait commis des atrocités pendant l'invasion de la Belgique. Et elle a défendu le militarisme allemand en l'estimant essentiel à la culture allemande. Ceci n'a fait que confirmer les vues du camp opposé. Une traduction en anglais de la lettre est sortie plus tard aux États-Unis et circulée partout avec une réponse dénonciatrice de son contenu. Je l'ai ici. Ça s'appelle « The American Verdict on the War, a reply to the appeal to the civilized world of 93 German professors » by Samuel Hardin Church. Il est moins facile, beaucoup moins facile, de découvrir les noms des personnes honorables, mais peu nombreuses, qui ont refusé de participer à cette guerre de propagande. Mais parmi eux se trouvent certains des plus grands noms du XXe siècle. À Berlin, Georg Friedrich Nicolai, professeur de médecine, et Albert Einstein, professeur de physique. Et à Göttingen, David Hilbert, professeur de mathématiques. L'auteur Hermann Hesse a dénoncé ceux qui font de la guerre dans la sécurité de leur bureau. En Grande-Bretagne, William Butler Yeats, le plus grand poète de sa génération, George Bernard Shaw, le dramaturge et le philosophe Bertrand Russell, ont figuré parmi ceux qui ont refusé. Je tire une fierté de ma famille contre Gilbert Murray, en sachant que mon arrière-grand-père, Sir James Murray, l'éditeur de l'Oxford English Dictionary, appartenait à ce nombre, donnant en tant que raison d'avoir refusé de signer que la philologie était plus importante que le patriotisme et que la fin de la guerre rétablirait le besoin de collaborer avec ses collègues allemands. Je voudrais bien vous questionner combien de Français se sont opposés à la tendance dominante. Avec la continuation de la guerre, même certains qui avaient signé les diverses déclarations publiques ont commencé à avoir des doutes. Gilbert Murray lui-même a continué de défendre avec passion la guerre tant que ses amis Asquith et Lord Grey étaient au pouvoir. Il a assumé la responsabilité de défendre la conduite de Grey contre les accusations très nuisibles et probablement vraies que, sans consulter ni le Parlement ni le peuple anglais, il avait signé les traités secrets qui avaient forcé la Grande-Bretagne à se mettre en guerre. En 1915, un groupement important d'objecteurs de conscience, religieux ou moral, s'est révélé avec l'introduction de la conscription mâle universelle en Angleterre. Ceux-ci ont refusé de s'enrôler et au début, ils étaient condamnés à la prison. On disait que quelques-uns même auraient été enrôlés de force et détaché tout de suite en France, où il risquait d'être fusillé sans passer en jugement, en tant que déserteur. Un assez grand nombre des amis intellectuels de Gilbert Murray faisaient partie de ce groupe. Par exemple, Bertrand Russell, le philosophe, a été congédié de son poste de maître assistant à Cambridge et enfin a été emprisonné en 1918 pour son organisation du No Conscription Fellowship. Bien que Murray fût toujours en faveur de la guerre et ne fut jamais lui-même pacifiste, il s'est mis à mener une campagne pour les droits de ces individus et pour le bon fonctionnement des tribunaux indépendants pour entendre leur cause. C'était à ce point-ci que ces principes libéraux se sont entrés en conflit avec la politique du gouvernement, celui-ci étant bien sûr sous la contrainte de l'opinion publique, désireuse de rendre la vie aussi difficile que possible pour ces lâches qui ont refusé de se battre pour son roi et son pays. En décembre 1916, Lloyd George, détesté par Murray, est devenu Premier ministre. Et Murray a commencé à douter profondément de la conduite de la guerre. Il a publiquement donné des raisons pour une paix négociée. Et en 1918, conjointement avec le politicien conservateur Lord Robert Cecil, ils sont devenus instigateurs en Grande-Bretagne de l'Association pour la Société des Nations. Murray, vous avez entendu, on était le vice-président de 1919 à 1923. De 23 à 38, il était le président et de 38 à 57, le co-président de l'organisation qui est devenue, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Association pour les Nations Unies. Pendant presque 40 ans, Murray a développé et a dirigé un mouvement populaire qui avait en Angleterre plus que 600 000 membres à son maximum. Pendant cette période, il a eu une grande influence sur la politique publique en faveur de la paix et de la coopération internationale dans le monde entier. La Société des Nations elle-même a été formellement fondée en 1920. En 1921, Murray a été nommé délégué officiel de l'Afrique du Sud et par la suite, jusqu'à 1924, en tant que délégué britannique, il a participé dans les négociations détaillées menant à la fondation de la Société. Comme vous avez entendu ce matin, Murray a fondé aussi l'Organisation pour la coopération internationale en 1922, conjointement avec Henri Bergson, Madame Curie et au commencement Albert Einstein. Il en était le président de 1928 à 1931. On peut peut-être dire qu'à ce point-ci, l'odyssée qui a mené au repentir de Murray pour ses activités en 1914 trouvait sa fin formelle, car il était en principe le travail de l'Organisation internationale de coopération qui a mis en route la réconciliation formelle entre les lettrés allemands et les autres. Mais il n'était qu'en 1928 que, pour la première fois, après une absence de 14 ans, des délégués allemands furent admis à une conférence internationale des sciences, celle des mathématiques, à Bologne. De plus, il n'était qu'en 1935 que l'Autriche et l'Allemagne fussent enfin admises à l'Union académique internationale. Le travail international de Marais n'était pas toujours apprécié par ses collègues universitaires. En 1923, le recteur d'Oxford lui a écrit pour lui proposer formellement qu'il voudrait peut-être céder son poste de professeur de grec, puisqu'il dévouait une grande partie de son temps aux affaires internationales. Marais a refusé, mais il lui a offert de renoncer un demi de son salaire pendant 5 ans afin de payer un nouveau poste d'études grecques. En tant que libéral, au sein de la politique internationale, Marais a été injustement jugé par des générations plus récentes, à cause, j'imagine, de l'incapacité, enfin, de compte de la Société des Nations de maintenir la paix du monde. Les études des relations internationales en Angleterre s'accordent en général avec les opinions réalistes de professeur E. H. Carr sur l'inutilité de la société. Mais ces opinions n'ont été formulées qu'en 1939. Après la destruction de la société par les invasions de la Mandchourie, par les forces japonaises et par les actes d'agression de Mussolini, de Hitler et de Franco. En outre, le jugement de M. Carr ne tient pas compte que le dit professeur est lui-même devenu à la fin apologiste dogmatique de l'Union soviétique de Staline, dans 10 volumes boursouflés. L'erreur de Marais, en fin de compte, était de sous-estimer la crise que connaîtraient les dirigeants libéraux ancestraux. Une crise provoquée par le massacre de la classe ouvrière pendant la Première Guerre mondiale. Les peuples de l'Europe se sont rebellés contre l'ancien régime bourgeois. Et ils ont passé le pouvoir aux démagogues et aux tyrans pendant les 71 ans qui suivent. Comme ses autres contemporains, Marais ne pouvait pas comprendre ce bouleversement. Toutefois, il a créé le mouvement pour la paix le plus populaire du XXe siècle. Et il a sauvé donc l'Angleterre du culte européen contemporain des hommes de force. Dès 1933, la République des Lettres était menacée de nouveau quand tous les universitaires juifs en Allemagne étaient renvoyés. Et par la suite, en Italie, en 1938. En réponse à cet imprévu, William Beveridge, directeur du London School of Economics et plus tard l'auteur du Beveridge Report, qui a créé l'État-providence britannique d'après-guerre. Beveridge a établi le Academic Assistance Council, renommé plus tard le Society for the Protection of Science and Learning. Cette société, appelée maintenant le Council for Assisting Refugee Academics, le CARA, l'année dernière a fêté 75 ans d'activité lors d'une conférence au British Academy l'année dernière. C'était à l'origine l'acte de générosité le plus important dans toute l'histoire de la République des Lettres. Car, au début, des contributions volontaires, quelquefois s'élevant à 10% des salaires des universitaires britanniques, l'ont financé. Ce n'était pas financé par le gouvernement, plus tard par la fondation Rockefeller, mais au commencement par les gens universitaires en Angleterre. Entre 1933 et 1939, la société a sauvé la vie de 2600 universitaires juifs et de leurs familles et leur a fourni des bourses pour leur permettre de continuer leurs recherches en Grande-Bretagne jusqu'à ce qu'ils puissent trouver des postes. Parmi ceux qui ont reçu de l'assistance étaient la plupart des grands intellectuels de la génération passée. Le docteur Ludwig Gutmann, les scientifiques Albert Einstein, Max Perutz, Max Born, Hans Krebs, Klaus Fuchs, le philosophe Karl Popper, les lettrés classiques Eduard Frenkel, Rudolf Pfeiffer, Arnaldo Momigliano et Victor Ehrenberg, les fondateurs de l'histoire de l'art Nikolaus Pevsner, Erwin Panofsky, Raymond Klebanski, Ernst Gombrich et toute la bibliothèque de l'Institut Warburg de Hambourg, avec son effectif entier. Il s'agit du transfert le plus important de la culture occidentale depuis la chute de Byzance. Les archives du Society for the Protection of Science and Learning restent dans le Bodleian Library à Oxford. Et elle raconte d'une façon détaillée et révélatrice le grand soin et l'humanité offerte aux familles des réfugiés par ces officiels. Or, Marais était le premier et l'une des plus actifs partisans de l'initiative de Beveridge. Il était son représentant principal à Oxford, chargé de solliciter les fonds et de trouver pour les professeurs réfugiés des postes et des maisons. C'est à cause de lui qu'il y avait à Oxford un si grand nombre de lettrés importants pendant la guerre. Marais a offert lui aussi de l'hébergement et de l'hospitalité dans sa maison à ses collègues réfugiés. Le repentir de Gilbert Marais était long et complexe, et il ne l'a jamais formellement avoué. Probablement, en fait, il aurait regardé sa vie comme une unité dévouée aux principes libéraux et au rationalisme grec. Déjà en 1900, il a écrit à sa belle-mère, Lady Carlyle, « La Grèce a un message profond et permanent pour le genre humain, un message tout à fait insensible au surnaturel et à la religion révélée. Il est humain, un message tout à fait insensible, il est humain, doué de raison et progressiste. Il touche non seulement l'art, mais la vie entière. Moi, j'ai une foi et un message, et je veux les exprimer. La littérature grecque contient les germes de presque tout. Donc, on peut traiter de presque toutes les tendances en traitant d'elles. C'est une foi qui a unifié sa vie dans tous ses aspects et qui a informé toutes ses activités. Les émissions de Gilbert Murray sur le British Broadcasting Corporation, le BBC, se jouaient presque du début de BBC National Service en 1922 à 1956, moins d'un an avant sa mort, à l'âge de 91 ans. Ces émissions laissent voir son humanité et son importance durable comme une personnalité bien connue et vénérée. Sa première émission a eu lieu le 13 mai 1926, le lendemain de l'effondrement de la grève générale. Lord Reith, le directeur du BBC, l'avait choisi pour offrir de l'espoir d'une réconciliation. Et Murray a commencé par louer les chefs du Trades Union Congress pour leur courage en annulant l'ordre de grève. 30 ans plus tard, sa dernière émission a eu lieu le 8 octobre 1956. Un appel de la part des réfugiés de l'Europe s'envoie, qui sont encore une fois entrés en foule suite à l'invasion soviétique de l'Hongrie. Elle se termine par une anecdote. Marie dit, « J'ai parlé une fois avec Ribbentrop, qui a dit qu'il ne comprenait pas bien les sentiments réels de l'Angleterre pour ce qui concerne la politique. Je lui ai répondu, une chose est certaine. L'Angleterre ne persécutera personne, ni supportera ceux qui persécutent. Murray était, au fin de compte, l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Nous ne devrions pas nous étonner que les funérailles du rationaliste Murray étaient publiques et avaient lieu à l'abbaye de Westminster, où on lisait les paroles mouvantes faisant l'éloge des hommes illustres de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Merci.